Monde du livre. Ne manquez pas Épilogue pour découvrir chaque semaine des livres d'ici et d'ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue, le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Depuis plus de 27 ans, Profil est la référence en rock progressif. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88.3 FM ou sur profilprog.com.
Vous vous intéressez aux différents genres de rock? Eh bien, je vous donne rendez-vous le mercredi de 20h à 22h aux quatre coins du rock. René Boudreau, je vous y attends.
Bonjour Québec, ici Jimmy Lajoie-Boucher pour CKIA 88.3 et voici votre bulletin d'information. À partir du 18 novembre prochain, le grenier à meubles permettra à une nouvelle clientèle intéressée de se procurer des meubles usagés à un coût abordable. Aussi, les clients pourront être accompagnés pendant leur magasinage dans le local de la rue Watt. L'organisme qui fait partie du service d'entraide Basseville offre ses services depuis 1971. Anciennement nommé l'Atelier des meubles, leur mission consiste à venir en aide aux plus démunis et à lutter contre l'exclusion sociale. La microbrasserie Grindel, installée dans son local de la rue Saint-Vallier-Ouest depuis 2015, quitte le quartier Saint-Sauveur. En avril 2024, elle s'établira dans les locaux de l'ancien Cochon d'Ingue sur le boulevard René-Lévesque. Ce déménagement permettra notamment au Grindel de compter sur une terrasse de 70 places. Quant à leur production, c'est à Saint-Jacques-de-Lise que l'entreprise compte l'établir. Ce nouveau lieu de production donnera à l'entreprise une plus grande autonomie puisqu'elle sera désormais propriétaire du local. Le Grindel pourra aussi compter sur un nouveau lieu de vente et un salon de dégustation. L'Aube-Rivière appréhende la saison hivernale. Avec la hausse de l'itinérance à Québec, la question de l'hébergement des personnes sans domicile fixe revient au cœur des préoccupations. Le refuge se dit plein à tous les soirs avec un taux d'occupation de 300% pour ses services qui incluent le centre de jour, l'hébergement pour femmes et le centre de dégrisement. Frédéric Lapointe, coordonnateur clinique, commente la situation.
Très honnêtement, on ne pourra pas. Écoutez, ça le fait depuis des années et des années. Là. On a 101 lits qui sont à pleine capacité à tous les soirs. On a un service de 15 lits de dépannage qui est vraiment ouvert 24 heures sur 24, où ce que les gens peuvent venir, ça s'appelle la halte. Dans le fond, c'est un moment de répit. Les gens viennent dormir un 8 heures. Malheureusement, on doit les réveiller parce que quelqu'un d'autre qui a un lit. C'est occupé à 300%.
Carl Tremblay, le chanteur des Cowboys fringants, s'est éteint le 15 novembre dernier après une lutte contre le cancer à seulement 47 ans.
Je suis né dans les années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie.
L'artiste, grandement apprécié pour sa contribution à la musique québécoise, laisse dans le deuil, entre autres, sa conjointe Marie-Annick Lépine, aussi membre des Cowboys, leurs deux filles, et les membres du groupe et de nombreux fans et proches. C'était votre bulletin d'information sur CKIA 88.3, rendu possible grâce à l'initiative de journalisme local.
Thank you. toute simplicité. La plupart des hommes semblent n'avoir jamais réfléchi à ce qu'est une maison et passent effectivement, quoique inutilement, leur vie entière en état de pauvreté parce qu'ils croient devoir posséder une maison semblable à celle de leurs voisins. Devrons-nous sans cesse nous creuser la cervelle pour obtenir davantage de ces choses plutôt que de parfois nous satisfaire de moins? Le citoyen respectable devra-t-il ainsi enseigner fort sérieusement au jeune homme, par ses mots et son exemple, en quelle absolue nécessité il est de pouvoir posséder tel nombre minimal de galoches, de parapluies et de chambres d'amis vides pour accueillir des amis eux-mêmes vides avant de mourir? Pourquoi notre mobilier ne pourrait-il être aussi simple que celui des Arabes ou celui des Indiens? Nos maisons d'aujourd'hui sont encombrées et souillées par tous ces meubles et une bonne maîtresse de maison en enverrait valser la plupart d'un coup de balai pour ne point laisser ses corvées matinales inachevées. Par les rougeurs d'aurore et la musique de même nom, mais quel genre de corvée matinale un homme doit-il faire en ce monde? J'avais 3 morceaux de calcaire sur mon bureau, mais je fus horrifié de constater qu'il nécessitait un époussetage quotidien. À un moment où le mobilier de mon esprit était lui-même encore plein de poussière et, pris de dégoût, je l'ai jeté par la fenêtre. Comment dès lors pourrais-je avoir une maison meublée? Je préférerais m'asseoir au grand air, car nulle poussière ne s'accumule sur l'herbe, sauf aux endroits où l'homme a aménagé le sol. La simplicité et la nudité même de la vie de l'homme dans les âges primitifs emportaient du moins cet avantage qu'elle lui permettait de demeurer un simple résident de passage au sein de la nature.
Bois. Le vent c'est d'argile. Ma peau sera silence, mon corps comme un ruisseau.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Désolé pour le petit pépin technique. Je vous avoue que je me considère toujours comme un étudiant animateur de radio. Je vais finir par y arriver, mais on a toujours des erreurs, des choses qu'on apprend tout le temps. Alors, voilà. Aujourd'hui, ben, je vais... on devait avoir Jacques Sénécal, il ne pouvait pas aujourd'hui, donc... On va avoir Jacques Sénécal la semaine prochaine et qui va... on va discuter là de la pauvreté versus la simplicité volontaire. Alors, cette semaine, je vais poursuivre avec les exercices spirituels de Pierre Hadot. Avant ça, je vais vous parler un peu de ma semaine. J'ai été voir le film... L'océan vu du cœur, c'était un peu comme le testament, on pourrait dire, d'Hubert Reeves. Malgré que ce n'est pas un film sur Hubert Reeves, mais Hubert Reeves il fait quelques interventions dans le documentaire. C'est un documentaire. Et je pense que c'est la dernière entrevue qu'il a donnée avant de mourir. Donc, c'est assez spécial. C'est un très beau documentaire. Il est à l'affiche dans les cinémas présentement. Je ne sais pas combien de temps qu'il va durer à l'affiche, qu'il va rester à l'affiche, mais je vous recommande vraiment d'y aller. Il y a beaucoup d'informations intéressantes. C'est un cours d'écologie, de biologie et beaucoup de belles images, des choses aussi moins drôles, plus dramatiques. Mais c'est un bon moment de cinéma que je vous recommande. Je pense bien y retourner une deuxième fois. Cette semaine aussi, on a eu au Loisir Montcalm une conférence d'André Beauchamp on l'avait déjà invité, André Beauchamp, qui fait un peu un rappel de l'encyclique du pape sur l'écologie. Le pape François, qui est un pape écologiste, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a choisi le nom François, parce que François, ça réfère à Saint François d'Assise, qui est considéré comme le patron des écologistes. Et M. Beauchamp nous rappelle de lire le Laudato Si, l'encyclique du pape, qui est une espèce de manifeste écologique, qui est un très beau texte. Et M. Beauchamp a publié plusieurs livres. Il y a son dernier livre, que je vais vous lire un extrait, qui a été publié en 2021, « Voir la Terre autrement, piste pour une spiritualité écologique ». Alors, il nous parle de la situation actuelle. À première vue, le problème est insoluble. Il y a bel et bien une crise de l'environnement, c'est-à-dire un dérèglement du système de régulation de la Terre. Le climat se réchauffe et beaucoup plus vite qu'on l'avait prévu. De très nombreuses espèces animales et végétales disparaissent. La pollution affecte la plupart des écosystèmes. Toutes les sociétés connaissent un stress environnemental, même si certaines cherchent à le nier. Le bel et grand équilibre que la Terre a connu depuis 10 000 ans se détraque à la vitesse grand V. La Terre en a vu d'autres, me direz-vous, et vous avez bien raison. Hier n'était pas si beau et aujourd'hui n'est pas si mauvais. Entre le premier amas de poussière cosmique apparu il y a 4,5 milliards d'années et la planète luxuriante que nous connaissons maintenant, il y a eu d'énormes crises et évolutions, apparition de la vie, émergence et mise en place des continents, éruptions volcaniques gigantesques, vacillement de la Terre sur son axe, formation de la couche d'ozone, émergence de la vie depuis l'océan vers la Terre ferme, etc. Il y a 65 millions d'années, une météorite a frappé la Terre si violemment que les espèces dominantes du temps, les dinosaures, ont disparu, donnant leur chance aux mammifères. Faut-il évoquer les grandes glaciations alors que des kilomètres d'épaisseur de glace ont recouvert l'Europe entière et notre territoire? En se retirant, le glacier nous a laissé les Grands Lacs et le Saint-Laurent. C'est un beau livre qui est un... Je trouve un... C'est un condensé de l'écologie, de la situation, et avec des réflexions très appropriées, le sens de la vie, en tout cas, que je vous recommande. Alors, c'est un livre de 195 pages aux éditions Novalis, André Beauchamp, « Voir la Terre autrement ». Ah oui, puis je vous parlais d'Hubert Reeves, j'ai un petit extrait d'Hubert Reeves, vous allez vous lire aussi. Un de ses derniers livres qui s'intitule « Le banc du temps qui passe, méditation cosmique ». Alors, à la fin de sa vie, Hubert Reeves devient plus un philosophe qu'un astrophysicien. Et dans le film que je vous parlais, là, l'océan vu du cœur, on parle beaucoup des animaux. Alors, je vous lis un extrait du livre de Hubert Reeves, « Le banc du temps qui passe », qui parle des animaux. « Les animaux ne sont pas bêtes. Aux animaux, perçus comme des êtres inférieurs, on associe souvent des adjectifs dévalorisants. Ils sont dits stupides, sans intelligence ou tout simplement bêtes. Le mot parle de lui-même. On leur attribue des comportements méchants. En fait, la notion de méchanceté se prête mieux aux activités humaines, torture, oppression, sadisme. L'écrivain anglais George Bernard Shaw écrivait « Quand un tigre tue un homme, on crie à l'horreur. Quand un homme tue un tigre, on parle de sport. » Les observations scientifiques sur le comportement animal montrent l'ineptie de cette vision négative. Le comportement génial de certains animaux, oiseaux migrateurs, abeilles, fourmis, dauphins, corneilles, pieuvres, nous révèle l'existence de formes stupéfiantes d'intelligence. Ce qui se passe dans leur tête nous est largement inconnu. Grâce à Darwin, les hommes ont appris qu'ils faisaient partie de la grande famille des animaux. La crise écologique contemporaine nous impose la nécessité de développer l'esprit de famille élargi à toute vie. Nous sommes entièrement dépendants les uns des autres. Notre vie est liée à la bonne santé du monde animal et végétal. Ces changements dans notre vision du monde pour devenir efficaces doivent s'accompagner d'une révision du vocabulaire. Il conviendrait de renoncer aux expressions « se conduire comme une bête », « une cruauté bestiale » et d'autres encore. Des mots utilisés dans la vie courante sont susceptibles d'affecter insidieusement les modes de pensée et les comportements. À Malicorne, il est convenu de remplacer les mots « mauvaise herbe » par plantes sauvages. Ces changements peuvent paraître anodins. À long terme, leurs effets sont majeurs. Ça aussi, moi aussi, j'ai éliminé le mot « mauvaise herbe » qui finalement, c'est pas une réalité biologique, c'est culturel. Et bravo, là, à Québec, j'en parle souvent, là, l'initiative de demander aux gens de ne pas tondre leur pelouse là, au mois de mai. Pour laisser pousser ce qu'on appelle les mauvaises herbes, mais en fait, qui sont des plantes très utiles d'un point de vue biologique. Alors, Je vais poursuivre là, ma revue de presse. On prend une petite pause musicale. Je poursuis ma revue de presse au retour de la pause musicale.
Un jour dans un village, quelqu'un s'est mis à vendre du pain. On venait de sauver de l'ouvrage, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Puis quelques temps après, la farine livrée à la ville, et puis vendue à la livre, tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le blé porté sur les marchés du monde, le prix qui monte sur le dos de la demande. Ils ont breveté les semences, on sait plus par quelle botte s'y prendre pour manger. Plus tard, suivant la ligne, on a mis l'eau dans les bouteilles, puis les rivières dans les turbines. Tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. On bouche les trous avec des clous, l'argent du pain, l'argent du beurre, puis la chèvre et puis le chou, puis tout ce qu'on a trouvé à dire, c'est combien. Le bénéfice a mis sa main dedans le doute, la terre qui tourne peut même plus joindre les deux bouts. À 4% on te remercie, puis pour le reste il y a vas-y, faut payer. Du prix de l'indécence, si tu veux être, faut que tu dépenses. La bourse mouline sur la confiance, tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien. Un petit peu moins pour un petit peu plus cher, au profit notre laisser-faire, attendre jeudi pour le nécessaire. Tout ce qu'on trouve encore à dire, c'est combien. À la santé de la croissance, de la croissance. On laisse dormir l'amour dans les petites avances. L'incalculable a rendu l'homme, mais le silence, notre silence, puis la fin de notre silence, c'est combien? C'est combien?
Alors, c'était Fred Pellerin de son album « Plus tard qu'on pense ». Et la pièce, c'était « C'est combien ». Avant ça, on avait eu, en début d'émission, « Devant l'étang », Richard Séguin de son album « Retour à Walden ». Avant de poursuivre ma revue de presse aussi, pour ceux qui s'intéressent, en fin de semaine, ça commence aujourd'hui, il y a le Salon du livre des Premières Nations. Ça se passe dans le Vieux-Québec, là, entre la Maison de la littérature. Il y a une partie qui se passe là, puis il y a une partie qui se passe dans l'édifice d'à côté qui s'appelle le Morin Center. Et il y a des conférences, toutes sortes d'activités. Alors, pour ceux qui s'intéressent, ça commence aujourd'hui. Salon du livre des Premières Nations. Dans ma revue de presse, j'ai retenu un article du Devoir de mardi qui parle de Aristote. Éviter les extrêmes avec Aristote. C'est un article de Raphaël Fievèze. L'auteur est travailleur social, détenteur d'un certificat en philosophie. Il habite Montréal. Et je suis bien d'accord avec ce qu'il dit. Je vais vous lire un extrait. Dans une époque où il semble régner une atmosphère de division grandissante, surtout dans les réseaux sociaux, Aristote peut s'avérer un penseur important. De fait, jadis, les gens avaient quelques retenues. En croisant leurs voisins, leurs amis, leurs adversaires idéologiques au coin de la rue, ils mesuraient leurs mots et leurs réactions. se retrouver face à une personne en chair et en os encourage cette forme de décence civilisatrice. Aujourd'hui, devant les écrans, dans une forme d'anonymat, il est monnaie courante d'insulter, d'invectiver et de faire des procès d'intention en tous sens. Cependant, il est possible d'avoir et de pratiquer une forme d'action face à ces extrêmes de la polarisation, et ce, grâce à Aristote. Alors, il dit le juste milieu comme manière d'être et d'agir. Aristote, un philosophe de la Grèce antique, a développé une idée maîtresse de la philosophie morale. Ce concept est la médiété ou le juste milieu. En bref, il est question de choisir la voie et l'action dans un juste milieu entre deux excès. Prenons l'exemple du courage. Pour Aristote, celui-ci n'est pas la témérité, agir sans penser aux conséquences et sans réflexion, ni la lâcheté, se refuser à agir par peur. Le courage est l'action par excellence entre deux versants d'une réalité possible. Prenons l'exemple concret d'une personne en train de se noyer. Nous pouvons agir avec témérité en sautant pour la sauver, tout comme nous pouvons, par lâcheté, ne rien faire. Si vous ne savez pas nager et que vous sautez, à quoi cela sert-il? Si en sautant, vous vous mettez également en danger, à quoi cela peut-il bien servir? A contrario, si vous ne faites rien par peur, est-ce courageux? L'individu courageux, celui, sera celui qui agit en calculant, raisonnablement, par la raison pratique et par pragmatisme en fonction de ses forces et de ses faiblesses et des circonstances. Il est hors de question de rester à ne rien faire, tant il est hors de question d'agir sans penser ni réfléchir. Alors, je ne vous lirai pas l'article au complet. Si vous voulez le lire au complet, c'est dans le Devoir de mardi 14 novembre, page A6. Et on en a parlé, ça fait partie des vertus. Toutes les vertus, on les applique d'une façon, dans le juste milieu. Puis, je pense qu'il y a raison, les philosophes de l'Antiquité ont des choses à nous apprendre de ce point de vue-là. Il y avait aussi dans le Devoir de mercredi, c'est un texte de François William Croteau, qui vient de publier un livre là, qui s'appelle « S'adapter », que je suis en train de lire. Peut-être que je vais l'inviter. C'est un ancien maire de Rosemont, Petite-Patrie, puis il fait partie du courant du municipalisme. C'est que le municipalisme, c'est un courant qui veut qu'il faut revoir la façon de construire, de faire nos villes pour les rendre plus conviviales, plus humaines, plus agréables à vivre, plus intéressantes. Puis on est tous gagnants là-dessus, là, quand on fait ça. Mais c'est nouveau, il y a de la résistance, il en parle un peu dans son article « Populisme et dépendance à l'auto ». Le débat sur la mobilité urbaine reste d'une brûlante actualité. En témoigne le récent déraillement du projet du tramway de Québec qui vient d'atteindre un nouveau sommet dans sa longue odyssée parsemée de retards. Il y a de quoi s'en inquiéter. La mise en œuvre de réseaux de transport structurants est une nécessité criante à travers le Québec pour aider ses citoyens à se détacher de leur dépendance à l'automobile. Sur ce vaste territoire, à la densité faible, certains doivent parcourir de longues distances, même pour accomplir les tâches les plus banales, comme se rendre à l'épicerie. Ce que j'aime aussi, c'est pas ça qu'on dit, la voie du milieu, c'est que notre perception des transports en commun réside précisément dans ce préjugé. Pour certains, ils sont le refuge des moins nantis, comme je l'ai souligné par le passé et comme l'a réitéré récemment mon collègue Jean-François Nadeau. Nous avons tendance à considérer à tort le transport collectif comme une charge financière, tandis que les infrastructures routières destinées aux voitures sont vues comme un investissement. Bien que l'idée de la ville au quart d'heure de Moreno, c'est un concept, la ville au quart d'heure, où on développe la ville en fonction d'avoir tout à proximité de 15 minutes de marche. Nous devons reconnaître qu'elle ne se prête pas aisément à la réalité de la plupart des villes québécoises. D'un autre côté, il est injuste de blâmer ceux qui, matin et soir, se retrouvent coincés dans leur voiture à créer de la congestion routière. Pour améliorer leur qualité de vie et alléger leurs dépenses, il serait essentiel d'investir massivement dans des options de transport collectif dignes de rivaliser avec le confort des sièges des véhicules utilitaires sport. Actuellement, le débat se cristallise plutôt autour de la consolidation des actifs et de la réduction des déficits des sociétés de transport, une approche qui nous éloigne de l'ambition d'un développement axé sur la mobilité durable et structurante. Ben, en gros, c'est qu'on a tous à gagner là, d'investir dans les modes des réseaux structurants de transport en commun. De toute façon, ça va aider aussi les automobilistes en décongestionnant les routes. Puis si on regarde les exemples en Europe, quand on a un bon système de transport structurant, les gens choisissent d'utiliser ces systèmes-là au lieu de l'automobile. Ça enlève les autos sur la route, puis ça laisse la chance à ceux qui veulent continuer avec l'automobile d'être moins pris dans des embouteillages. Alors, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est un article que je vous recommande dans le Devoir de mercredi de François-William Croteau. Dernier article, c'est dans le Devoir de mardi. Des organismes s'unissent pour défendre des terres agricoles. Imaginez une surface aussi grande que 40 patinoires de hockey dans un champ cultivé. Imaginez maintenant que l'on asphalte cette surface au complet tous les jours durant 25 ans. C'est pourtant là exactement la superficie de terres agricoles qui se sont perdues au Québec depuis 1998, soit 57 000 hectares. Nos terres cultivables disparaissent sous le béton. Et au nom du développement industriel, routier et de l'étalement urbain. Une usine de batterie par-ci, un nouveau quartier par-là, un parc industriel là-bas, un stationnement ici, pourquoi pas. Laisse tomber la directrice générale d'Équiterre, Colin Thorpe. L'organisme a lancé lundi, en compagnie de la Fédération de la relève agricole du Québec, de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, de Protecteurs et de Vrive-en-Ville, l'Alliance salutaire, dont l'objectif est de militer en faveur d'un renforcement de la protection du territoire agricole. On dit fort appui populaire. C'est en effet forte d'un sondage léger indiquant que les trois quarts des Québécois considèrent qu'il est urgent d'intervenir pour protéger les terres contre le développement résidentiel et industriel que l'Alliance entend se présenter lors des consultations. Que l'Alliance entend, oui, c'est ça, présenter. Le Québec a tout intérêt à protéger son garde-manger puisque seulement 2 % du territoire est cultivable comparativement à 58 % en France, 45 % aux États-Unis. Cette rareté fait en sorte que ces terres très recherchées ont vu leur valeur exploser au fil des ans. Selon la présidente de la FRAC, Julie Bissonnette, la valeur est 10 fois plus élevée qu'il y a 25 ans et atteint, par exemple, 50 000 $ l'hectare en Montérégie. À ce prix, dit-elle, il devient difficile d'espérer un rendement sur l'investissement avec une production agricole de plus en plus fragilisée par les aléas d'une météo imprévisible et parfois sauvage. Ça fait que, oui, alors c'est ça, je suis totalement d'accord avec ça. Puis d'ailleurs, à Québec, on a une belle initiative là, qui est en cours. Là. On va voir. Je n'ai pas eu de nouveau de ce côté-là, mais c'est un dossier qu'on suit, tout le dossier des terres, des sœurs de charité qui s'enligne vers un projet de, en tout cas, qui aurait de l'agroforesterie, qui est vraiment l'agriculture du futur et un beau laboratoire qui sera accessible aux gens de Québec. Alors, ça aussi, c'est à suivre. Donc, une autre petite... Ma revue de presse est terminée, donc une autre petite pause musicale, puis on revient avec Pierre Adeau. Alors, c'était Jan Tiersen, la bande sonore du film d'Amélie Poulain, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors, oui, je reviens avec le livre de Pierre Hadot, N'oublie pas de vivre. C'est un excellent livre. Pas facile, par contre, pas facile à lire, mais important parce que il nous parle des exercices spirituels de façon concrète, des exercices spirituels, c'est-à-dire les pratiques des philosophes pour bien vivre. Puis, je vais vous parler, entre autres, là, du regard d'en haut aujourd'hui, qui est une façon pour les philosophes de mieux vivre dans le moment présent, d'avoir un recul, parce que, comme aujourd'hui d'ailleurs, dans l'Antiquité, il y avait c'était pas toujours facile, il y avait beaucoup de guerres, la vie était difficile, puis les philosophes pratiquaient le regard d'en haut, c'est-à-dire avoir un recul sur les choses. Puis, si on regarde même avec Thoreau ou les philosophes de cette époque-là, on pourrait dire que c'était aussi un peu des mystiques, les philosophes. Il y avait une vision ou une pratique, on pourrait dire, spirituelle pour bien vivre, disons. Alors, je vous lis un petit extrait là, du livre de « N'oublie pas de vivre » de Pierre Hadot, Goethe et la tradition des exercices spirituels. Alors, il nous parle de Philon d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie, aux environs de l'ère chrétienne, évoque son expérience philosophique. « J'avais l'impression d'être constamment soulevé dans les airs, porté par une inspiration divine qui s'emparait de mon âme, de circuler en compagnie du soleil et de la lune, en compagnie aussi du ciel et de l'univers tout entier. Alors, si je me penchais d'en haut de cet éther et si j'étendais le regard de mon esprit comme du haut d'un observatoire, je pouvais contempler les spectacles innombrables que m'offraient toutes les choses qui sont sur la terre. Et je me félicitais d'avoir échappé de vive force aux calamités inhérentes à la vie mortelle. » On en a besoin que d'ailleurs, si vous allez voir le film que je vous recommande, là, L'océan vu du cœur, ça nous ramène à la réalité qu'il y a réellement une crise écologique, puis il faut agir, comme je disais, je parlais de Socrate, pas Socrate, mais d'Aristote, on se doit d'agir. Même M. Beauchamp, dans son livre, là, nous explique qu'il y a une voie du milieu où on se doit d'agir, mais en même temps, ça peut être difficile. Alors, il y a des pratiques qui nous permettent de ne pas se sentir démolis par les réalités qui ne sont pas toujours faciles. Là. Alors, je poursuis avec Pierre Hadot. C'est, cette fois, à travers l'espace infini et la multiplicité des mondes que le vol de l'esprit prend son essor chez les épicuriens. Le monde que nous voyons n'est pour eux que l'un des mondes qui s'étendent dans l'espace infini et le temps infini. Par exemple, chez Cicéron, un épicurien évoque ces espaces innombrables infinis dans lesquels l'esprit prend son essor et s'étend pour les parcourir dans toutes les directions, en sorte qu'il ne voit jamais aucune borne, aucune limite à laquelle il puisse s'arrêter. Lucrèce, c'est un philosophe qui était à l'ère, un peu dans l'époque romaine, là, qui était après Épicure, mais qui a permis, par ses écrits, de connaître Épicure. On en a parlé, qui est un peu le philosophe de la simplicité volontaire, c'est Épicure. Malheureusement, Épicure avait écrit beaucoup, il y avait beaucoup, beaucoup de textes d'Épicure. C'était un grand, grand philosophe de l'Antiquité, mais il reste presque rien de ses écrits. Et donc, on utilise les écrits de Lucrèce, entre autres, pour nous avoir une idée de ce que c'était l'école épicurienne. Puis on peut dire que c'était une forme, c'était des mystiques un peu, certainement, Épicure. Alors, il dit, Lucrèce dit d'Épicure, il s'est avancé très loin, au-delà des barrières enflammées du monde, et il a parcouru par l'esprit et la pensée le tout sans limite. Et à propos de la quête du savoir, puisque l'espace s'étend infini au-delà des limites de notre monde, l'esprit cherche à savoir ce qui se trouve dans cette immensité où l'intelligence à volonté peut à volonté plonger ses regards, où l'essor libre de l'esprit puisse s'envoler. Ou encore, les murailles du monde s'écartent. Je vois les choses se produire dans le vide infini, avant de rappeler l'infinité de l'ensemble des choses et la petitesse de ce qui nous entoure, le ciel, la terre, par rapport à cet infini, Lucrèce avertit son lecteur. C'est ici qu'il te faut apporter un regard qui porte au loin et qui voit de haut. Et il te faut regarder au loin et en tous sens. Pour les épicuriens, il s'agit donc de la volupté de se plonger dans l'infini, dans ce qui est sans limite. C'est aussi dans l'infini que s'étendent le vol de la pensée et le regard d'en haut chez les stoïciens, comme en témoigne Sénèque. Combien il est naturel à l'homme d'étendre son esprit dans l'infini. Et Marc Aurèle, l'âme s'étend dans l'infini du temps infini. Mais chez les stoïciens, il n'y a qu'un univers fini, l'infinité étant celle du temps dans lequel le même univers fini se répète infiniment. On pourrait dire que ce regard d'en haut chez les platoniciens, les épicuriens et les stoïciens est une sorte de pratique, d'exercice de la physique dans la mesure où, à l'aide des connaissances physiques, l'individu se situe lui-même comme partie du tout du monde ou de l'infini des mondes. Cette vision procure aux philosophes la joie et la paix de l'âme. Épicure affirme que nous n'aurions pas besoin de l'étude de la nature si nous n'étions pas troublés par la crainte des dieux et de la mort. L'âme, dit Sénèque, possède en sa forme achevée et plénière le bien que peut atteindre la condition humaine, lorsque, foulant aux pieds tout le mal, elle gagne les hauteurs et qu'elle parvient jusqu'au sein le plus intime de la nature. Elle se plaît à planer au milieu des astres. Le regard d'en haut peut devenir aussi un regard impitoyable porté sur la petitesse et le ridicule de ce qui passionne les hommes, car dans la perspective de la vue d'en haut, la terre n'est qu'un point par rapport à l'immensité d'un univers ou des univers. La terre me parut si petite, dit Scipion, racontant son rêve chez Cicéron, que j'eus honte de notre empire romain. Ce thème de la critique des passions humaines, quand on les observe à partir d'un point de vue supérieur, est largement orchestré dans toutes les écoles, et tout spécialement, nous allons le voir, dans la tradition cynique, et il n'est pas exempt d'un certain mépris pour le commun des hommes. Le Pythagore qui entre en scène à la fin des métamorphoses d'Ovide déclare « Je veux prendre mon chemin au milieu des astres élevés. Je veux abandonner la terre, ce séjour inerte. Je veux me faire porter par les nus et fouler sous mes pieds les épaules des puissants Atlas. Et de là-haut, je verrai les hommes errant à l'aventure et tremblant, faute de raison, à l'idée de la mort. » C'est pas qu'ils veulent fuir le monde, mais c'est que, et avec un regard, on a un recul, on n'est pas complètement absorbé dans la réalité du monde. C'est un peu ça. C'est toujours l'équilibre. Pour les anciens, c'était toujours l'équilibre. C'est comme s'il y avait trois niveaux de connaissance. Là. Il y a un niveau plus fondamental, qui est instinctuel, et un deuxième niveau qui est la raison, qui l'outil par excellence des philosophes, et un troisième niveau plus spirituel qui est le niveau, c'est de là qu'on parle de l'élévation de l'esprit chez les philosophes. Alors c'est ça, on prend une autre petite pause musicale et je vais poursuivre avec ma série sur comment marchent les philosophes.
Oh,
C'était la pièce Vision, Vision, de l'album Vision de The Music of Hildegard von Bingen. Alors, c'est ça, on va continuer notre série avec les Comment les philosophes marchent, le petit livre de Roger-Paul Droit. Un autre petit livre que je vous recommande qui parle de plein de philosophes, puis comment la marche et la pratique de la marche est liée à la philosophie. Et comme je vous parlais de Pierre Hadot, des exercices spirituels, mais clairement, la marche pour les philosophes, c'était un exercice spirituel, comme le regard d'en haut dont je vous parlais tantôt, ou même être dans le moment présent, c'était des exercices spirituels dans l'Antiquité. C'est ce que Pierre Hadot nous rappelle. Mais des philosophes plus modernes aussi pratiquaient les exercices spirituels. Puis aujourd'hui, ben, on va parler d'un philosophe que vous connaissez bien parce qu'on en parle à chaque semaine, Thoreau. Marche en sauvage. C'est un beau texte de Roger-Paul Droit, sauf qu'à la fin, lui, il n'est pas d'accord avec Thoreau. Alors, c'est bien. C'est bien de faire des remises en question. C'est ça qu'Aristote dit, la voie du milieu, avoir des doutes. Mais moi, je pense que c'est parce qu'il ne comprend pas tout à fait ce que Thoreau fait, mais en tout cas, je vous lis quand même le texte « Comment marchent les philosophes ?» Thoreau marche en sauvage. Sortir de la civilisation, se fondre dans la nature, retrouver l'origine, l'instinct. Est-ce paradis ou enfer ? Henri-David Thoreau ne fait pas semblant. Marcher n'est pas une distraction, n'est pas un loisir, pas même un hobby ou une passion quelconque. Au contraire, il fait de la marche l'exact synonyme de la vie prise au sens le plus élémentaire, le plus brut et fort, une puissance souveraine échappant aux règles, aux normes, aux circonstances, aux convenances. Si Thoreau marche tant, c'est d'abord en raison d'une nécessité profonde, impérieuse, mystérieuse, celle de la vie elle-même. Il ne marche pas moins de 4 heures par jour, et bien plus à certaines périodes. Souvent, ce sont des journées entières dans des directions différentes, parfois au hasard, non pour aller quelque part, plutôt pour approcher l'inconnu. Thoreau aime faire des découvertes, apercevoir soudain l'insolite d'un endroit qu'il croyait connaître. Il s'émerveille quand surgit une ferme isolée, un bois caché, une rivière secrète, là même où il pensait avoir déjà tout arpenté. Thoreau marche en symbiose avec la nature, dans une campagne américaine encore peu transformée, loin des villes du monde et de la civilisation. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Le continent est encore peu peuplé, bien peu urbanisé. Il est possible, en certaines régions, de marcher des jours sans rencontrer âmes qui vivent. Comment ne pas imaginer alors rencontrer, à chaque pas, l'originaire, la réalité première, la nature brute? Thoreau s'immerge avec fièvre dans cette existence primitive et cosmique. Il vit au milieu des arbres, s'efforce d'être autosuffisant, s'applique à ressentir en lui et autour de lui la puissance cosmique de la vie, énigmatique, libre, souveraine, brute absolument. Cette existence, immergée dans la nature, en fusion avec les éléments, avec les vies animales, Thoreau l'a décrite dans Walden. Ce n'est pas sans raison que ce livre, chez certains, est devenu culte. Les mouvements qui veulent en finir avec la technique, mettre un terme à la domination humaine sur la nature et son cortège d'arrogance vaine comme des saccages irréversibles, ont fait de Walden une sorte de nouvel évangile. Là, je vais sauter des bouts parce que on approche de la fin. Alors, il dit quel sens. Alors, ça, c'est Roger-Paul Droit qui continue. Il dit quel sens a donc pareille rupture? Vers quelle terre sainte, quelle béatitude chemine ce marcheur en quête d'absolu? En quoi consiste donc l'enfer qu'il veut laisser derrière lui, le vieux monde qu'il entend quitter à jamais? Les réponses ne sont pas difficiles à trouver. Il suffit de lire jusqu'au bout ces pages enflammées Où va la marche selon Taureau? Dans le sauvage. C'est là qu'elle dirige, qu'elle se dirige, se déploie, s'immerge, se développe. Le sauvage, wild, et ce que la marche habite, traverse et rejoint dans un paradoxal mouvement de rupture et de retrouvailles. Elle dit adieu aux villes, aux artifices, aux techniques. Elle rompt avec la civilisation, les conventions, les normes, les codes. Elle quitte la culture et même le langage pour n'être plus que corps, sensation, instinct, cosmos. Il s'agit donc de marcher non seulement hors de la culture, mais contre elle. Cette rébellion contre l'ordre, contre tous les ordres, les savoirs, les règles au profit du savoir, du libre, de l'instinctif paraît d'abord attirante. Elle a pour elle une sorte d'adeur farouche et bravache, un parfum d'existence sans concession. Elle peut faire illusion, mais ce n'est qu'une illusion, du moins à mes yeux, une illusion dangereuse, car cet éloge du sauvage a tout d'un fantasme. Cette détestation des vides de la culture, cette haine de la civilisation, sont porteuses d'une violence fanatique, destructrice. Alors, c'est ça, il est pas d'accord avec la vision de Taureau, mais je pense que c'est parce qu'il n'a pas compris Taureau. Il n'allait pas oser de cette fascination pour le sauvage. Je persiste à préférer, comme firent à travers les millénaires tous les savants, artistes, penseurs, architectes, politiques, philosophes, écrivains qui ont contribué à humaniser le monde, ce qui est travaillé à ce qui est brut, ce qui est policé à ce qui est sauvage, ce qui est construit, transformé, codé, qui est donné tel quel dans la nature. Alors, pour lui, le côté humain, il ne faut pas le rejeter. C'est son point de vue. Je pense que Taureau, quand on parle du policé, c'est beaucoup la raison qui est nécessaire. Là. C'est l'outil principal des philosophes. Mais comme je disais tantôt, Taureau allait dans le mystique. Et c'est peut-être là que Roger Paul-Droit ne saisit pas la vision de Taureau. En tout cas, mais c'est quand même un texte intéressant sur Taureau. Et l'émission est terminée. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine avec Jacques Sénécal. Bonne semaine.
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
Le droit à la vie. Le droit à la liberté d'expression. Le droit à la non-discrimination. Le droit à l'éducation. Le droit à la vie.
Si les droits humains ne sont pas défendus, ils risquent de disparaître. Rendez-vous sur amnesty.ca pour écrire des messages de solidarité en soutien aux personnes dont les droits sont bafoués. Parce qu'écrire, ça libère.
Pour que les élèves obtiennent les services auxquels ils ont droit, le gouvernement doit permettre au personnel de soutien scolaire de les offrir. Cela passe par une amélioration des conditions de travail pour attirer les gens en éducation et les garder. Les membres du personnel administratif, technique, paratechnique, manuel et dans les services directs aux élèves veulent des postes à temps complet. Notre moyenne salariale est trop basse, à 26 500 $. Un message de la Fédération du personnel de soutien scolaire, CSQ.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur